Il est 9h40, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Le documentaire que vous verrez ce soir sur France 2 va vous rétamer d'émotion et de perplexité. Vous en sortirez et vous vous méfierez plus que jamais des stéréotypes et raccourcis médiatiques. C'est l'histoire d'un combattant djihadiste mort au champ d'honneur. C'est l'histoire d'une famille franco-syrienne pétrie de culture politique, littéraire et religieuse. C'est l'histoire d'un imam de Molenbeek qui vomit l'État islamique. Ils ont tout pour attiser le soupçon, passé judiciaire et dossier au parquet antiterroriste, ils ne sont pas loin de là, comme vous les imaginez d'emblée. Bonjour Stéphane Malter.
Bonjour Sonia.
Au nom du père, du fils et du djihad est un film freudien où la petite histoire rencontre la grande, un pied en Orient, l'autre en Occident. Mais d'abord, j'accueille Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour, je ne fais pas grève.
Non, vous ne faites pas grève. Et hier, vous avez regardé iTélé en grève, freudien. Vous avez dit freudien.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors, on a appris hier dans le reste de l'actu que les auteurs et producteurs de l'enquête sur le Crédit Mutuel, initialement commandée par Canal+, finalement diffusée l'année dernière par France 3, ont fini par porter plainte pour, je cite, « entrave à l'exercice de la liberté d'expression », je cite encore « abus de bien social et abus de pouvoir ». Ils visent notamment Vincent Bolloré, considéré comme responsable de cette déprogrammation, à l'époque qualifié de censure. Depuis 10 minutes, voilà, il est 9h42, ça a commencé à 9h30, les salariés de iTélé sont à nouveau réunis en assemblée générale, votant une éventuelle reconduite de la grève qui a bloqué l'antenne hier. La première de Jean-Marc Morandini a eu lieu en direct, avec le concours de techniciens venus en renfort, selon nos confrères du Monde, de la maison mère Canal+. Et alors vous, pendant ce temps-là, Bruno, vous avez regardé iTélé toute la journée et vous avez été sidéré.
Oui Sonia, vous l'avez dit, hein, hier, il y avait la grève sur iTélé, un événement rarissime sur une télévision privée et qui m'a donné envie d'aller voir à quoi ça ressemblait la grève sur une chaîne info. Qu'est-ce qu'on balançait dans le tuyau? Et je dois dire que j'ai commencé par être très agréablement surpris parce qu'iTélé a profité de l'occasion pour rediffuser toute une série de reportages absolument remarquables. J'ai ainsi pu voir, par exemple, un reporter bravait la guerre en Syrie, un autre en Libye, un troisième au Mali. Bref, j'ai pu vérifier hier qu'iTélé ne faisait pas que des duplex devant les écoles maternelles les jours de rentrée des classes, mais bien un travail extrêmement précieux réalisé par de courageux et talentueux journalistes. Et puis les choses se sont gâtées vers 18h, heure à laquelle la grève a pris fin. À l'antenne. Là, un type en costard s'est pointé pour présenter le JT. Il a fait son job, le journal s'est achevé et il a dit ceci.
18h05, merci de votre présence. Voilà pour l'essentiel de l'info de ce lundi soir.
Voilà l'essentiel de l'info, qu'il a dit le gars. Sauf que dans son essentiel de l'info, il n'y avait pas un traître mot sur la grève qui affecte sa chaîne et que soutiennent pourtant une écrasante majorité de ses camarades. Sur France Télévisions, par exemple, ou ici même, hein, Sonia, sur France Inter, quand il y a grève, le présentateur du journal le dit, et il y a même très régulièrement un reportage qui en explique les motifs. Eh bah, bien, sur iTélé, il n'y a rien. Ou plutôt si, il y a ça.
Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur iTélé pour Morandini Live. C'est votre nouveau rendez-vous média en direct.
Il y a Morandini, le gars par qui la grève est arrivée, qui se pointe en majesté. Et là, les bras vous en tombent. Alors pas tant parce qu'un type mis en examen arrive à l'antenne, ça c'est déjà pas mal, mais présomption d'innocence et tout le Saint-Frusquin, admettons. Non, ce qui m'a sidéré, Sonia, c'est la manière avec laquelle Morandini a débarqué comme si de rien n'était. C'est bien simple, ça n'était plus Morandini, c'était Morandini. Et j'ai vu dans son émission toute une série de bras d'honneur absolument magistraux dont je vais vous exposer le menu. D'abord, Morandini a commencé par faire un bras d'honneur au journalisme. Figurez-vous qu'il a égrené le sommaire de son émission dont le sujet est, je le rappelle ici, les médias, sans un mot, un seul, ni sur son arrivée, ni sur la grève, ce qui, comme il le dit assez bien lui-même.
Alors c'est clairement assez osé hein, comme façon de faire, surtout quand on est au cœur de l'actu.
Voilà. Puis il a fait un bras d'honneur aux journalistes. Il a choisi de recevoir Stéphane Plaza, qui après avoir fait à l'antenne la promotion de ses agences immobilières, a dit
« Vous savez la presse, je la lis plus, donc ça m'intéresse pas trop ».
Voilà, ensuite, eh ben, il a fait un bras d'honneur à toute la profession en posant naïvement cette petite question à son invité qui ne lit plus ce qu'écrivent les journalistes.
Ça veut dire que c'est possible d'avoir des amis dans ce métier quand même.
Voilà, alors là, t'as envie de lui dire, bah, ça dépend de la façon dont tu te comportes avec ton métier, mon gars. Puis, il a enchaîné avec un très subtil bras d'honneur à tout l'héritage de Canal+.
Le zapping, c'est ici et du par ailleurs.
Voilà, alors à l'heure où on apprend que France 2 s'apprête à récupérer le créateur historique du D-Zapping, Patrick Monet, fallait le faire, et puis si t'es nulle part ailleurs, c'était pas mal. Et puis il a conclu avec un énorme fist-fucking à tous les salariés grévistes d'ITélé, puisqu'il a conclu son émission comme ceci.
Un grand merci aux équipes d'ITélé qui nous ont aidés à préparer cette première émission, c'était pas toujours facile.
Voilà, alors on dit bravo, on applaudit l'artiste qui a aussi, j'ai failli oublier, ajouter ça.
C'était pas parfait, on va améliorer ça au fur et à mesure.
Alors si, Jean-Marc, je vous jure, c'était absolument parfait. Surtout, n'améliorez rien, vous maîtrisez remarquablement l'art du bras d'honneur, même si, en pinaillant un peu, je dois admettre qu'on distingue tout de même un peu mieux les bras que votre sens de l'honneur.
Merci Bruno. S'il y a un mot, papa, maman, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Eh ben, vous avez qu'à réécouter, expliquer ça à vos enfants. Il parle pas anglais. Moi, je voudrais dire un petit mot très personnel au sujet de Jean-Marc Morandini. Ce que l'Instant M couvre depuis quelques jours, c'est l'affaire ITélé, ou comment une chaîne info impose avec la plus grande brutalité cet animateur à sa rédaction. Ce que Bruno Donnet vient de vous raconter, c'est la façon édifiante, voire même peut-être choquante, dont le même Morandini a conduit sa première édition dans un tel contexte. Maintenant, pour ce qui est du journalisme médias tels que l'a toujours pratiqué Jean-Marc Morandini, eh bien, on peut choisir de l'exercer différemment, très différemment. C'est ce que fait l'Instant M et son équipe. Mais on peut aussi rappeler que le grand direct a été la locomotive de l'audience d'Europe 1 et que tout le PAF, à de rares exceptions près, s'est précipité dans cette émission pendant des années. Les mêmes, qui hurlait hier soir, je cite, sur les réseaux sociaux, au journalisme de merde. Le problème, ce sont peut-être les pratiques et l'image de Jean-Marc Morandini, c'est surtout ce qu'en fait ITélé.
L'Instant M, avec Sonia De Villers.
Voilà, partons loin, très très loin, chers auditeurs et chers invités de ces considérations microcosmiques. Stéphane Malter, au nom du père, du fils et du djihad, est diffusé ce soir à 23h15 sur France 3. 3 ans de travail, 2 heures de film. Syrie 2013, vous avez filmé le combat, votre caméra au milieu des tirs de Kalach, accrochant les visages des soldats de l'armée syrienne libre. Abdelrahman Ayashi, dit Abu Abar, c'est son nom de combattant.
Ajar.
Juste avant sa mort.
Vous avez peur ?
Pour l'instant, non. Même pendant la bataille, ça va, j'ai pas peur, non.
Non, vous avez pas peur ? Tout le monde a peur ?
Ça m'arrive des fois d'avoir peur, mais j'ai surtout peur quand je suis en ville, qu'il tombe une bombe. J'ai l'impression de mourir par traîtrise, alors que là, j'y vais pour ça, donc je sais à quoi m'attendre. Ça me fait pas vraiment peur, moi.
Voilà, cet épisode d'une très grande intensité dure presque un quart d'heure d'image situé au milieu de votre film qui dure 2 heures. Moi, j'ai voulu commencer par là parce que cet épisode vous laisse pantois d'émotions, de tristesse même. On voudrait qu'il ne meure pas. Lui, le djihadiste au parcours si troublant, si facile à caricaturer et que vous, Stéphane Malter, vous avez décidé de raconter autrement. Racontez-nous qui est Abdelrahman Ayashi.
Alors Abdelrahman Ayashi, je l'ai rencontré en fait, je suis tombé sur lui par hasard en 2012. J'avais lu un bref papier de Georges Malbruno dans le Figaro qui faisait écho à un jeune franco-syrien qui avait rejoint la SL, une brigade islamiste au sein de la SL et qui se battait donc en Syrie. Moi en fait j'avais juste son nom de guerre et j'avais le nom de sa brigade. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait un site sur internet qui incarnait la brigade. Ce site d'ailleurs a été monté par Abdelrahman parce que c'était un informaticien à la base. Et donc j'ai envoyé un mail et je lui ai dit bah, j'aimerais bien venir vous filmer. Et il m'a répondu pourquoi pas, venez, vous êtes le bienvenu. Et c'est comme ça que tout
voilà,
a commencé.
Voilà, donc là vous avez filmé un combattant qui est quand même à la tête d'un groupe très important, de plusieurs centaines de soldats, qui vous raconte qu'il apprend la lutte armée dans les livres, qui cite Mao Tse-Tung et Che Guevara, qui vous dit... comment combattre une armée puissante quand on n'est pas une armée. Il l'a appris en lisant. Et là, on découvre le portrait très subtil d'un homme qui rejoint la Syrie pour combattre Bachar. Il combat Bachar, c'est-à-dire il combat la dictature des Assad que son propre père a fui en 68. Et personne dans sa famille ne l'en a dissuadé.
Non, alors c'est tout le... D'abord, le Che Guevara, ce qui est intéressant avec Abderrahmane et ce qui est intéressant avec la famille Nashi, et moi ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, ils sont complètement dans le paradoxe. Mm-hmm. Moi, je tombe sur un type qui est islamiste, qui me dit, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est le Coran, c'est la religion, je me bats au nom de cette idéologie, je me bats contre un dictateur. Il se battait aussi aux côtés de brigades laïques. Hein, et tout en même temps, il me cite le Che Guevara, donc il y a une espèce de... Il y a un côté iconoclaste, il y a un côté assez paradoxal, qui est assez étonnant. Et qui casse un peu les clichés. Et ce qui est amusant, c'est que dans la famille Nashi, on retrouvera toujours ce côté-là, entre l'Orient et l'Occident. Le père, de même, me dira, à propos de son fils, voilà, il s'est battu parce qu'il a suivi le chemin de la famille, il a fait son devoir familial, il a fait son devoir religieux, et en même temps, il se référait aussi au grand-père français d'Abderrahmane, puisqu'il est français et syrien, en me disant, son grand-père était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'était aussi un modèle pour lui.
Son grand-père était résistant, il était officier de l'armée française, d'abord embastillé par les Allemands, et puis ensuite maquisard. Et le petit-fils et le grand-père avaient une relation très forte. Les Ayashi ont été élevés dans une double culture, franco-catholique par la mère qui ensuite s'est convertie, syrienne et musulmane par le père. Mais on retourne chaque année en Syrie pour les vacances. Il y a là une maison, une très belle propriété terrienne que le père a fait jurer à ses fils qu'il ne vendrait jamais. Et là, vous avez filmé Abderrahmane dans cette propriété.
En fait, Abderrahmane, moi, à l'époque, quand je le filme, je connais rien de son histoire familiale. Je sais simplement qu'il est français, d'origine syrienne. Et à un moment, je le filme pendant une quinzaine de jours, pendant les préparatifs de combat, etc. Donc, il y a des réunions militaires importantes, des repérages. Et à un moment, je lui dis, écoutez, il faudrait que j'en sache un peu plus sur vous et que je comprenne, que j'aille un peu plus sur votre intimité. Il faudrait que je vous filme dans un endroit qui corresponde un peu à qui vous êtes. Et il me dit, écoutez, j'ai une idée. Et là, il m'emmène dans une maison, une somptueuse maison avec un liwan, une piscine, des champs, d'arbres fruitiers, etc.
Voilà, les Ayashi sont les héritiers d'une famille de gouverneurs, de muftis, de juges.
Et c'est là que je découvre en fait que les Ayashi en fait depuis 500 ans vivent dans cette région, que les arrière-arrière-grands-parents d'Abderrahmane étaient des muftis, des cadis, des juges dans la ville d'Idlib, au temps de l'Empire ottoman. Donc tout ça remonte à très loin. Et je découvre, en fait, matériellement, concrètement, les racines syriennes d'Abderrahmane, qui pour moi n'avaient jamais été évidentes, parce que chaque fois que je parlais avec lui, il y avait vraiment un côté très occidental.
Mais toutes les séquences sur cette maison, et moi qui viens d'une famille qui a aussi fui une dictature dans un autre pays, je sais que l'importance d'une maison quand on est exilé, la maison qui traduit l'ancrage dans une terre, c'est quelque chose de fondamental pour toutes les familles d'exilés. Et donc, il y a ce rapport à la terre et à la terre syrienne, voilà. Vous qui vous appelez Stéphane Malter, ça m'a troublé pendant tout le film. Abderrahmane Ayashi, lui, il a grandi à Aix-en-Provence, une enfance tout à fait heureuse, épanouie. Ouais. C'est la génération MC Solar et jeux vidéo. En 96, on déménage en Belgique, à Molenbeek. Il va se rapprocher, quand il a 20 ans, de son père, qui est imam. Très important pour la communauté musulmane locale. On en fera le portrait un petit peu après. Abderrahmane va suivre son enseignement au centre islamique belge. Et c'est là qu'on rentre dans une histoire de filiation, de transmission qui est au cœur de votre film, que j'ai dit quand même très psychanalytique, très beau pour cela.
L'idée du film, moi, c'était quand j'ai rencontré le père d'Abderrahmane après sa mort sur le champ de bataille, moi je connais pas grand chose de la famille, je connais pas grand chose de son père, je sais juste qu'il est imam, qu'il est syrien, et ce père m'annonce, alors que je viens le voir parce que j'ai filmé les dernières images de son fils, m'annonce mon fils est mort, il a suivi le chemin de la famille et c'est à mon tour d'y aller, c'est à mon tour d'aller me battre contre le régime.
Je vous propose qu'on l'écoute, le père. Alors, à l'image, ce que vous n'entendrez pas là, à l'image, ce vieil homme qui a la barbe blanche a les larmes qui coulent le long des joues.
Quand vous avez appris la mort de votre fils, est-ce que vous avez eu un sentiment de responsabilité, d'être responsable de ce qui arrivait ?
Non. Mais quand j'ai appris la nouvelle qu'il est tombé martyr, pour moi,
ça m'a enthousiasmé à continuer ce qu'il a commencé. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé tous ces gens qui étaient avec lui me disant, nous sommes tes enfants. Nous sommes les frères d'Abdelrahman. Et pour cette raison, j'ai perdu un, mais j'ai gagné des centaines.
J'ai perdu un, mais j'ai gagné des centaines. Voilà, c'était Bassam Ayachi, le père que vous avez été à votre tour filmé en Syrie, dans une région, je le précise, où aucun caméraman, aucun journaliste ne se rend tellement c'est dangereux. Voilà la rencontre du père et du fils. Je voudrais qu'on dise un mot d'abord sur le fils. Le fils, il a eu procès pour incitation à la haine raciale dans laquelle il a été condamné. Avant de partir en Syrie, il animait un site d'info qui a publié des propos violemment antisémites et négationnistes. Pendant qu'il était en Syrie, Stéphane Malter, Abdelrahman avait fait l'objet d'un procès en France pour propagande et recrutement. Et pendant ce temps-là, il était en Syrie et il aidait les services secrets à retrouver le journaliste américain qui a été enlevé puis finalement décapité, James Foley. C'est toute l'ambiguïté du personnage.
Alors, si vous voulez, effectivement, quand Abdelrahman vivait en Belgique, il a eu un ensemble de d'affaires parce que effectivement, c'était un militant islamiste et donc il animait un site internet et effectivement, il va y avoir une affaire pour antisémitisme. En fait, il était animateur du site et donc il a pas laissé passer des propos antisémites, ce qui est évidemment inadmissible et ce qui va faire l'objet d'une condamnation de 1000 euros pour incitation à la haine raciale. Par ailleurs, mais ça fait partie de l'histoire familiale, c'est que il était aussi, c'était un militant, donc en fait, sur son site, il faisait évidemment, il va être accusé de promouvoir ou en tout cas de soutenir le djihad en Irak au moment où il y a l'invasion américaine. Et donc d'un côté, il y a cette image-là, donc là, à ce moment-là, on va l'associer à Al-Qaïda.
C'est ça.
Et donc à partir de ce moment-là, il apparaît en tout cas l'image publique et par rapport à ses procès, c'est l'image d'un type qui serait un type d'Al-Qaïda et un terroriste. Et ce qui est étonnant et ce qui est intéressant, c'est que finalement en Syrie, quand moi je le retrouve en Syrie, il est considéré par la population locale comme un héros qui fait partie de l'armée syrienne libre. Et tout le paradoxe est là, effectivement, c'est qu'on a ces deux images entre terroriste d'un côté et de l'autre combattant.
Alors, il y a exactement le même paradoxe sur le père, c'est effarant. C'est-à-dire que l'image publique du père, qui est décrit comme un imam fondamentaliste, qui fera très tôt dans sa vie de la prison en Arabie Saoudite pour avoir fréquenté des révolutionnaires, qui a été emprisonné en Italie pendant 8 mois. Alors, l'Italie s'en est excusée, il a même été indemnisé pour cela. Il a été associé aussi dans sa vie à Al-Qaïda. Aujourd'hui, il est en Syrie, il est juge et il est fondateur d'un tribunal de proximité où il aide les gens, il aide la population et vous en faites un portrait très différent de ce qu'on peut lire dans la presse.
Alors, sur Abdelrahman, juste une chose, c'est par exemple, justement, notamment en Syrie, il a jamais été poursuivi pour faire du recrutement de djihadistes, enfin en tout cas étrangers, pour qu'ils viennent se battre en Syrie. Il a jamais fait l'objet de poursuites. Le groupe auquel il appartenait était un groupe non estampillé terroriste, qui faisait partie de l'ASL, même s'il était islamiste. Quand on perd, effectivement, il y a toute cette légende noire autour de Bassam Ayachi, qui a été suspecté d'être proche d'Al-Qaïda, il y a eu tout un nombre d'affaires faire autour de lui. S'il y a eu tout ça, c'est évidemment parce que c'était un imam qui se revendiquait d'un certain fondamentalisme, qui était plutôt d'obédience salafiste. Et effectivement, dans la période après post 11 septembre, ce genre de personnage inquiète et suscite tout un nombre de questionnements. Et finalement, quand on le retrouve en Syrie, et qui va prendre d'abord, il n'appelle pas les jeunes gens à venir se battre, européens, à venir se battre en Syrie. Il a fait des déclarations publiques là-dessus. Et ensuite, il se retrouve en position où il est considéré par Daesh comme un apostat, comme un mauvais musulman. Et en gros, il va être ciblé et attaqué par Daesh et va faire l'objet d'un attentat.
Voilà, portrait extrêmement complexe, passionnant, très émouvant à voir ce soir au nom du père, du fils et du djihad. France 2, 23h15, c'est la fin de l'Instant M.